Dat dan van? Êtes-vous allé à l'école ce matin? Non? Vous êtes allé la semaine passée? Êtes-vous heureux?
Oui.
Si oui ou sinon, vous avez à apprendre. Vous devez apprendre le contentement. Je vous raconte un petit poème ce matin en ce qui concerne le contentement. Chacun de nous autres, on a à apprendre ce contentement. Écoutez ce poème. C'était le printemps, mais je voulais l'été. Des jours chauds et le plein air. C'était l'été, mais je voulais l'automne, des feuilles colorées, l'air sec et frais. C'était l'automne, mais je voulais l'hiver, la belle neige, la saison des vacances. C'était l'hiver, oh, mais c'était le printemps que je voulais, la nature en pleine éclosion et en pleine floraison. J'étais enfant, c'était adulte que je voulais être. J'avais 20 ans, mais je voulais avoir 30 ans pour être mûr et efficace. J'étais d'âge mûr, oh, je voulais avoir 20 ans, l'esprit libre de jeunesse. J'étais retraité, oh, j'aimerais ça avoir l'âge mûr. Ma vie s'est achevée sans que j'aie pu voir ce que je voulais avoir. Je n'ai jamais été satisfait. Probablement chacun de nous, ce matin, on peut s'identifier à ce poème-là, sur un certain plan. Mais je pense que chacun de nous est atteint de ce qu'on appelle le mécontentement. Faut pas prendre mal ce que je veux dire là. Le mécontentement, c'est pas mal en soi. Parce que c'est votre mécontentement de prière qui va vous pousser à améliorer votre temps de prière. C'est votre mécontentement de votre relation avec Dieu qui va vous pousser à réfléchir, à réagir, à replacer vos priorités. Alors, il y a toutes sortes de choses qui nous amènent comme ça à changer nos vies parce qu'on n'est pas satisfait de ce que nous avons. Mais lorsque vous rencontrez un obstacle, ne dites pas « Seigneur, délivre-moi de cet obstacle ». Ne gaspillez pas vos douleurs, ne gaspillez pas vos souffrances. Ne dites pas « Oh Seigneur, empêche-moi cet obstacle, élimine-moi cette situation. » Il faut dire plutôt, « Apprends-moi, Seigneur, je veux apprendre la leçon, je veux dire avec l'apôtre Paul, j'ai appris. » Quand on passe par quelque situation que ce soit, il y a toujours une leçon. Ça peut être une correction de trajectoire, le Seigneur veut nous amener ailleurs. Ça peut être une leçon personnelle dans ma vie, ça peut être une préparation pour quelque chose d'autre, peu importe. Le Seigneur ne nous dit pas tout le temps, mais ce qui est important, c'est d'être prêt à apprendre la leçon. Paul a dû apprendre le contentement. Il a dû apprendre à se fier. Il a dit, je me plais, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il était content dans la situation qu'il vivait. Et c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça, c'est le premier point. Écoutez bien, c'est important. La piété vient avant le contentement. Vous ne serez jamais content si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Ça, on part au départ, c'est ça. Vous n'arriverez jamais à être content si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. C'est la clé. C'est la clé de base. Quand on est mécontent et qu'on critique toutes sortes de choses, là, arrêtez-vous et posez-vous la question. Ma relation avec Dieu, ça commence là. Vous savez, très peu de chrétiens ont appris la leçon de l'apôtre Paul. Même nos premiers parents n'ont pas appris ça. Même nos premiers parents n'ont pas appris le contentement. Abraham et Sarah n'ont pas appris le contentement. Et on peut poursuivre comme ça avec toute la lignée qui est en avant de nous autres, amenée jusqu'à nous, puis ils n'ont pas appris le contentement. Et pourtant, un cœur content, c'est un festin perpétuel. Lorsqu'on est content, on est heureux. Trop souvent, nous ne profitons pas de ce privilège. Nous vivons sur un nuage de déception, mais on marche sur le soleil. Bon, on se pose des questions tout le temps. Ça va pas bien, ça va pas bien. Donc, tous les jours, il nous arrive des situations. Mais qu'est-ce qui nous prive de cette joie? La réponse à cette question, l'apôtre Paul y répond lorsqu'il écrit la lettre aux Philippiens. Je vous invite à lire, à ouvrir votre, la Bible dans le livre de Philippiens. Il y a différents mots-clés, mais un qu'on retrouve, c'est la joie, qui revient 26 fois. Paul avait annoncé l'Évangile aux Philippiens lors de son deuxième voyage missionnaire, qu'on retrouve dans Actes au chapitre 16. Il y a eu Lydie, la marchande de pourpre, qui s'est convertie, qui venait de Thyatire. Il y a aussi le joaillier qui s'est converti dans la prison. Ça fut le début de l'Église, mais ça, c'était peut-être dans les années 52. En l'année 60, 8 ans après, Paul a écrit une lettre à Philippe. Mais quand il a écrit cette lettre-là à Philippe, il se trouvait en prison. Paul était en prison, enchaîné. Et en plus, les croyants de Rome étaient divisés. Si vous regardez les versets 15 à 17, on voit qu'il y avait, entre les chrétiens, il y en a qui étaient d'accord et il y en a qui n'étaient pas d'accord. C'était divisé à ce niveau-là. Pourtant, en dépit du danger, des contrariétés, Paul était débordant de joie. Quel était le secret de cette joie? Quel était le secret de cette joie? La réponse se trouve dans la façon de penser, la façon d'envisager la vie chrétienne. Ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons, dit le proverbe. Ce n'est pas une méthode autosuggestive, se convaincre que tout va s'arranger. C'est de démasquer qu'est-ce qui dérobe notre joie. Pensez-y comme il faut. C'est un travail, c'est une école, on a besoin d'apprendre ça. Quand on n'est pas joyeux, qu'est-ce qui fait que matin que je suis triste? Cherchez. Il faut aller à la source puis démasquer ce qui dérobe notre joie. Trop souvent, nous perdons notre joie à cause des circonstances. Vous savez que les circonstances sont des voleuses de joie. Les circonstances sont des voleuses de joie. La plupart des gens admettent qu'ils sont plus facilement contents et détendus quand tout va bien. Un jour, une jeune fille qui avait invité une copine de classe chez elle. Et tout à coup, « Ah, elle dit, papa a dû avoir une bonne journée au bureau. »« Ah oui, comment tu sais ça? » Bien, elle dit, « Il n'a pas fait crier les pneus de la voiture. Il a fermé la porte doucement, puis il a embrassé maman. » Trop souvent, les circonstances nous contrôlent, hein? On peut être influencé par le temps, circulation routière, mais encore moins les actes et les paroles de quelqu'un d'autre. Mais nous devons apprendre le contentement quand ça va bien puis quand ça va mal. Dieu ne nous demande pas de chercher la raison de chaque changement de direction dans nos vies. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous acceptions les circonstances et que nous répondions à l'obéissance en pleine confiance. Qu'on y fasse confiance en toutes choses. Je vous donne un exemple. Dans le peuple d'Israël, vous connaissez tous l'histoire de Jéricho, que le peuple a fait le tour pour conquérir. Ils ont fait le tour combien de fois dans le tour? Là? Comment? 5 jours? Puis en tout? 13 fois. Il a bien raison. Il a fallu qu'ils tournent en rond 13 fois dans la même semaine. Ça ressemblait plus à une pièce de théâtre qu'une conquête, ça. Mais pourquoi ils ont gagné? Un mot clé. Pourquoi ils ont gagné? Parce qu'ils ont obéi. Ça n'a pas d'allure. Faire le tour de la ville comme ça. Et qu'est-ce que les autres vont dire? Mais ils ont gagné parce qu'ils ont obéi. Vous savez, la personne qui fait dépendre son bonheur des circonstances est malheureusement est malheureuse la plupart du temps. Nous sommes souvent influencés par les circonstances et pourtant nous voyons l'apôtre Paul qui a écrit une lettre dans les pires situations, puis il était rempli de joie. Comment a-t-il appris cette leçon-là? Tout simplement en étant certain d'être dans la volonté de Dieu. Il savait que c'était Dieu qui l'avait placé là, et non les circonstances. Vous savez que l'homme spirituel voit les choses de ce monde selon les perspectives de Dieu, puis ça fait toute la différence. Quand il nous arrive une situation, au lieu de regarder la situation comme nous autres, on est habitués de la voir, il faut plutôt la voir comme Dieu la voit. Essayez de se placer à partir du ciel, puis regardez ça, comment que Dieu voit ça, lui. Pourquoi que Dieu m'a placé dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Si c'est Dieu qui a le contrôle de ma vie, puis je suis dans une situation qui, pour moi, est désagréable, c'est Dieu qui m'a mis là, mais il y a une raison pourquoi il m'a mis là. Il veut m'utiliser dans cette situation-là. Êtes-vous là où le Seigneur vous a placé? Si oui, laissez faire les circonstances. Les circonstances sont souvent trompeuses. Restez là et faites confiance au Seigneur, même si vous devez tourner 13 fois en rond dans la même semaine. Mais remettez-lui tout entre les mains puis laissez-le agir. Mais l'homme spirituel voit les choses de ce monde selon les perspectives de Dieu puis ça fait toute la différence. Être en bonne relation avec Dieu, être là où Dieu me veut, c'est le premier point. Il faut commencer là. Avoir une bonne relation avec Dieu puis être certain d'être à la bonne place, là où Dieu me veut. Si vous êtes un chrétien normal, vous vivez des difficultés, mais est-ce que ces difficultés vous encouragent, vous découragent ou si ça vous stimule? C'est rare que les difficultés nous découragent. Ça nous amène plutôt, c'est plutôt décourageant que stimulant. Mais pourtant, l'apôtre Paul, il a réussi, lui. On va regarder dans Philippiens, au chapitre 1er, on va lire quelques versets. Philippiens, chapitre 1er, verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'Évangile. Vous qui participez de la même grâce que moi. Soit dans mes liens, ou soit dans la défense de l'Évangile. » C'est intéressant quand on regarde le mot « lien » en grec, « desmos », qui veut dire, ça peut être « lien », « chaîne », « prison », « lié », « prisonnier », « enchaîné ». Écoutez bien. Nous savons que Paul souhaitait se rendre à Rome comme prédicateur et non comme prisonnier. Il avait fait des voyages un peu partout, puis dans son but, c'était de partir, puis aller faire un voyage à Rome, probablement la même tactique qu'ailleurs, aller dans les synagogues, après ça aller dans les places publiques. C'était probablement cette façon qu'il pensait de se rendre à Rome. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a pu écrire une longue lettre à propos de ses expériences vécues. Et lorsqu'on lit au verset 12, c'est intéressant le verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, frère, ce qui m'est arrivé. » C'est quoi qui est arrivé? Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce soit favorable à annoncer l'Évangile? Bien, quand on regarde ce qui lui est arrivé, on trouve ça dans le livre des Actes. À partir du chapitre 21. On peut voir à partir de là qu'il y a eu arrestation illégale dans le temple à Jérusalem. Les Romains le prenaient pour un rebelle égyptien qui était recherché. Paul devint l'objet d'un complot religieux et politique et passa 2 ans en prison à Césarée. Finalement, étant citoyen romain, Il en appela à César et il fut envoyé à Rome. Alors, au lieu d'y aller comme lui voulait, ça s'est fait d'une autre façon. Et vous connaissez la fameuse tempête de Acte 27. Au cours du voyage, le bateau fit naufrage. 3 mois d'attente sur l'île de Malte. Finalement, Paul s'embarqua pour Rome, là où il devait passer devant le tribunal de César, comme il avait demandé. Moi, j'ai lu beaucoup sur cette situation-là. J'ai même vu des commentateurs dire que Paul n'était pas dans la volonté de Dieu. La plupart auraient considéré Paul comme cette situation comme un échec. Hein? Si chacun de nous, on aurait passé d'une situation comme ça, peut-être qu'on aurait vu ça comme un échec, mais pas Paul. Paul ne trouvait pas sa joie dans les circonstances, mais il croyait que Dieu dirigeait sa vie, puis il dit, « Si je suis là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. » Puis il nous a donné la preuve quand il était dans le bateau, quand il s'est levé debout devant 273 personnes, puis Jésus a dit, « Le Dieu à qui j'appartiens. » Il n'a pas dit, « J'aurais dû rester en Grèce ou en Asie. » Mais Paul savait depuis Éphèse qu'il devait se rendre à Rome, puis il savait depuis Éphèse qu'il était pour passer des moments difficiles. Agabus lui avait dit, puis ses amis lui avaient dit. Mais il dit, « Je veux y aller pareil, parce que c'est le plan de Dieu, puis je veux suivre le plan de Dieu. » Est-ce quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie qui a complètement changé vos plans? Réorientation dans vos études, perte d'emploi, réorientation dans votre carrière, accident, maladie, perte d'un être cher. As-tu des choses comme ça qui arrivent dans votre vie? Peut-être vous pouvez dire, ce qui m'est arrivé a complètement changé ma vie. Mais pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses dans votre vie, puis vous avez dit ça? Depuis ce temps-là, ça a complètement changé ma vie. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est parce que Dieu vous veut du mal? Pourquoi c'est arrivé? 2 situations. Est-ce bien Dieu qui contrôle votre vie? Ou peut-être qu'il veut prendre le contrôle de votre vie? Quand il arrive des situations, si c'est Dieu qui contrôle ma vie, je continue. C'est Dieu qui contrôle ma vie. Ou si j'ai besoin d'apprendre à me laisser contrôler par Dieu. Paul a dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. On va lire le verset 13. En effet, ce qui a contribué au progrès de l'Évangile, c'est qu'en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Toute la garde et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. C'est ça qui est important de comprendre. On vient de voir 2 fois les liens. Les liens reviennent 4 fois dans le passage. Les liens qui nous parlent qui étaient enchaînés. Mais pourquoi qu'ils étaient enchaînés? À cause de l'Évangile. L'homme de Dieu regarde selon le regard de Dieu. Imaginez Paul qui est là. C'est pas comme ça qu'il voulait aller à Rome, mais c'est comme ça qu'il est arrivé. Il arrive là, puis il présente, puis il l'attache avec une chaîne, probablement attaché à un gardien. Vous savez qu'à ce moment-là, les Romains faisaient la rotation, il y avait un gardien 24 heures par jour, on changeait à toutes les 6 heures. Ça veut dire que 4 hommes par jour étaient attachés après Paul. Le gardien s'en allait, puis il n'avait pas 6 heures à voir Paul attaché après lui. Et Paul lui dit, « Regarde, qu'est-ce qui fait, Seigneur, que je suis ici? Comment ça se fait que je suis ici, attaché après ce gars-là? C'est pas comme ça que vous l'amenez parler à Rome. Mais je crois que tu contrôles ma vie. Puis si tu m'as amené ici, dans un bateau, dans une tempête, puis que là, je suis ici, attaché après ce gars-là, je crois que c'est ta volonté, puis Seigneur, je veux savoir pourquoi. » Puis là, sa perspective a changé. Il dit, ben oui, c'est-tu merveilleux un peu? C'est pas moi qui est attaché au gars, c'est le gars qui est attaché après moi. Il peut pas s'en aller. C'est merveilleux, ça. Hey, il va en passer 4 par jour comme ça, tant que je vais être là. Je les ai au bout du bras. Il s'est mis à voir autrement. Au lieu de voir se voir attaché après le gars, il a vu le gars attaché après lui. Puis ce gars-là, il a entendu l'Évangile sans arrêt. Un homme qui s'entretenait avec ceux qui le visitaient, un homme qui écrivait des lettres à des chrétiens, à des églises, Paul a pu annoncer l'Évangile à la garde romaine, ce qu'il n'aurait jamais pu faire sans ces chaînes-là. Si le Seigneur n'aurait pas dirigé Paul, puis l'amener là, puis l'enchaîner à un soldat, il aurait été dans les synagogues ou dans les lieux publics. Mais là, il l'avait amené à l'intérieur du prétoire. C'est ce qu'il nous est dit. Verset 13, qui nous dit, « En effet, dans tout le prétoire. » Le prétoire, c'est une salle d'audience d'un tribunal. Et le prétoire pouvait désigner le bâtiment de la garde romaine. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Paul, il est là, il est attaché par ce soldat-là, puis il le regarde. Puis... C'est pas pour rien qu'on dit à la fin de l'Épître aux Romains, saluer les gens de la famille de César. C'est qu'à l'intérieur, il y a eu beaucoup de conversions parce que Paul était là. Mais il y a une autre chose que Paul a vu encore, puis il a trouvé ça tellement extraordinaire. Là, il était là. Vous savez que Paul était là pour être jugé pour sa foi chrétienne. Là, il arrive à Rome, puis ils n'ont pas le choix. Les dignitaires romains sont obligés d'étudier son cas, d'étudier sa situation. Pourquoi il est ici, ce prisonnier-là? Ah, parce qu'il se dit chrétien. Parce qu'il dit que Christ est mort pour ses péchés, puis en tout cas, ils savent toute l'histoire. Alors, Paul, il se met à penser, « Hey! » Il dit, « Moi, il dit, je parle à un soldat, au moins 4 par jour. Puis les dignitaires qui sont dans les bureaux en haut, là, ils sont en train d'étudier mon cas. Ben, pour étudier mon cas, ils sont obligés d'étudier les Écritures. C'est-tu merveilleux un peu? Je ne suis même pas là, mais le Seigneur est en train de parler. C'est exactement ça qui est arrivé. Ben, Paul, il ne pouvait pas être plus joyeux que ça. Il se dit, regarde, je ne sais rien faire. L'Évangile est annoncé, eux autres, ils l'entendent par leurs études. Puis j'ai le gars à côté de moi, il y en a qui viennent me visiter, on se parle. Le gars, il n'a pas le choix d'écouter. Pour ça qu'il était heureux. Parce qu'il était à la bonne place. Ça n'a pas l'air à ça. Mais il était à la bonne place. Il était exactement là où Dieu le voulait. Si vous considérez vos épreuves comme une occasion que Dieu vous donne pour vivre l'Évangile, vous allez vous réjouir au lieu de vous plaindre. Apprendre à être content en servant le Seigneur dans les situations que Dieu a choisies. Dieu a un choix, il nous place dans des situations qui ne font pas toujours notre affaire, mais si on regarde selon le regard de Dieu, on va comprendre pourquoi. Êtes-vous là où le Seigneur vous a placé? Si oui, laissez faire les circonstances. Restez là et faites confiance au Seigneur. Même si vous devez tourner en rond 13 fois dans la même semaine, ce n'est pas grave. Remettez-lui votre situation, remettez-lui dans ses mains, puis c'est lui qui va s'en occuper. L'homme spirituel voit les choses de ce monde selon les perspectives de Dieu, puis ça fait toute la différence. Paul a appris à être satisfait en toutes circonstances. Paul a dit qu'il a dû apprendre le secret du contentement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne n'est pas content. En venant au monde, on commence à chialer de suite. Les échecs et les épreuves peuvent nous apprendre. Paul a appris en passant par les deux extrêmes, richesse, pauvreté, confort et inconfort. Vous savez que la vie, c'est une épreuve. Et rappelez-vous que les tests que vous passiez, que vous deviez subir à l'école, vous ne pouviez pas les éviter, réussir ou échouer. Mais quand nous avons à subir des épreuves de la vie, vous devez apprendre à bien les gérer. Vous savez, dans l'école de la vie, c'est la même situation qui se répète que quand on était à l'école secondaire. Réussir ou échouer. Et trop souvent, on est entre les deux et on fait du surplace. On tourne en rond parce qu'on attend que la situation vienne changer. C'est nous qu'il faut qu'il change. La situation ne changera peut-être pas. Vous savez qu'il y a une chose intéressante. Hein, quand on lit Matthieu 7, là, quand on chante ça, les enfants ils chantent ça, là, le fou sur le sable, puis l'autre qui a conduit sa maison sur le roc. Le premier qui a construit sa maison sur le roc, parce qu'il savait que la vraie question n'était pas de savoir si une tempête va arriver, mais quand elle allait frapper. Et pensez comme faux. Quand on vient au Seigneur, ça, c'est au début, un jeune chrétien, il passe toute la même situation. Aussitôt qu'il arrive des difficultés, il se demande comment ça se fait que ça arrive. Mais c'est ça. Il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il va m'arriver des difficultés dans ma vie? La réponse, c'est oui, il va en arriver. Ce que je n'ai pas comme réponse, c'est quand ça va arriver. Pour en arriver, c'est certain qu'il va en arriver. Mais quand? Je ne le sais pas. Alors, prépare-toi. C'est là qu'on a besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu. Puis quand il va arriver une difficulté, je dis, hop, non. C'est le Seigneur qui dirige ma vie. Si telle situation m'arrive, c'est parce que c'est lui qui le veut. Il m'amène là, dans cette situation-là, puis il y a une raison. Même si je ne la connais pas, lui, il la connaît. Le deuxième bâtit sa maison sur le sable. Quand l'orage est venu, la maison du premier a tenu le coup, alors que celle, la deuxième, elle s'est écroulée. Paul a appris que le secret du contentement est de mettre sa confiance en Dieu et de croire qu'il a plein contrôle sur ma vie. On ne naît pas content. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On ne naît pas content. C'est pourquoi nous devons nous inscrire à l'école du contentement. Je termine avec une petite histoire qui va peut-être vous faire rire un peu. Mais à quelque part, on passe tous dans une situation semblable. C'est l'histoire d'un agriculteur. D'un agriculteur qui trouvait son travail monotone et ennuyant. Accablé par le travail de sa ferme, il décida de la mettre en vente. Alors, il va voir un agent immobilier et quelques jours plus tard, la secrétaire de l'agent immobilier lui passa un coup de fil pour lui demander son avis sur l'annonce de vente qu'elle envisageait faire publier. Et elle commence à lire. Elle dit « Une ferme en excellent état, située dans un endroit idéal, isolé et calme, pas très loin de tous les services, une terre fertile et bien entretenue, des collines verdoyantes entourées d'un lac, aux eaux claires et poissonneuses, et un gros troupeau en parfaite santé. » Elle dit, « Pour vous, c'est une annonce que ça pourrait convenir? » Il dit, « Pouvez-vous relire l'annonce, s'il vous plaît? » Alors, la dame lui relit l'annonce. Ah, il dit, « Madame, j'ai changé d'idée. » Il dit, ça fait longtemps que je me cherchais une ferme comme ça. Ça vous arrive des fois de regarder la vie d'un autre et de dire, ah, j'aimerais bien ça. Changer de situation. Alors que vous en avez déjà une bonne. Paul aurait sûrement applaudi la réaction de cet agriculteur. Il avait vécu la même expérience, apprendre le contentement. Je suis content d'être là. D'être dans cette situation, d'être dans l'état où je me trouve, parce que c'est Dieu qui m'a placé là. Prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce que ta parole nous amène à réaliser que ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Nous ne sommes que des gérants ici et on a besoin que tu nous nous aide à bien gérer ce que tu nous as donné. On implore ta grâce, Seigneur, parce qu'on sait que la clé est dans la relation avec toi. Et on te prie de nous aider, chacun et chacune qui nous sommes ici ce matin, d'améliorer notre relation avec toi. On sait que c'est une priorité. On implore ta grâce sur nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.